Politique américaine, Vincent Gosselin.
Et on se retrouve avec notre chroniqueur Vincent Gosselin pour évoquer ensemble la politique américaine de la semaine. Et on va commencer tout de suite avec ces nouvelles révélations sur les fameuses pressions sur l'Ukraine pour une enquête sur les Biden père et fils par Rudy Giuliani, l'avocat de Donald Trump, l'ancien président américain. Vincent, on en sait un petit peu plus?
Oui, Monsieur Laurent, on en sait un peu plus. C'est le réseau CNN qui a obtenu lundi un enregistrement exclusif d'un appel téléphonique qui se serait déroulé en juillet 2019. Dans l'appel, on entend l'avocat personnel de Donald Trump et ancien proche conseiller, Rudy Giuliani, parler. Il parle en fait à un diplomate, un conseiller du président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Le conseiller s'appelle Andriy Yermak. Et on entend Monsieur Giuliani faire pression sur le gouvernement ukrainien en demandant, entre autres, de déclencher une enquête concernant la possible corruption de la part des Biden, mais particulièrement du fils de Joe Biden, Hunter Biden, qui est un homme d'affaires. Ouais. On veut enquêter sur la possible corruption en Ukraine et aussi sur des allégations d'ingérence ukrainienne dans les élections de 2016, mais il n'y avait aucune preuve pour les deux affirmations. Alors, on entend assez clairement M. Giuliani faire ça pendant 40 minutes, mais surtout, il insinue que si le gouvernement Zelensky en Ukraine fait ses faveurs politiques-là à M. Trump, au gouvernement Trump, eh bien, ça s'assurerait de l'appui du gouvernement américain. Et à un moment, il insinue que l'annonce publique d'une enquête égalerait à une visite aux États-Unis du président Zelensky, et donc ça améliorerait les relations avec les États-Unis et l'Ukraine. Mais bon, même si Rudy Giuliani dément toute inconduite dans l'affaire sur l'Ukraine, il y a quand même une enquête du FBI qui est en cours en ce moment sur ses activités politiques en Ukraine. On parle aussi de ses connexions avec la Roumanie. On ne sait pas encore si l'appel avec Yermak fait déjà partie de l'enquête, mais ce qu'on sait, c'est que cet appel-là, qui s'est passé en juillet 2019, ça a été l'appel précurseur avant le fameux appel entre Donald Trump et le président Zelensky, le même mois, un peu après, qui a mené au premier procès en destitution contre Donald Trump, qui s'était soldé par l'acquittement sur les deux chefs d'accusation au Congrès.
Donald Trump qui continue de faire parler de lui également sur les réseaux sociaux, puisque Facebook confirme sa suspension pour au moins 2 ans. Cela voulait dire qu'il pourrait revenir en 2023 si les conditions le permettent. Pouvez-vous nous éclaircir sur cette décision?
Oui, donc c'est le conseil de surveillance de Facebook qui annonçait ça vendredi dernier. Le conseil de surveillance, c'est une entité interne à Facebook, mais indépendante, qui rend des décisions sur la modération de contenu. Alors, Facebook a délégué cette décision-là à son conseil de surveillance qui a tranché. Monsieur Trump ne pourra pas être de retour sur Facebook pour 2 ans, donc en 2023. C'est juste avant les élections de 2024, et Donald Trump qui a pris la parole en fin de semaine dans un rare discours, il laisse encore planer là, des doutes concernant une possible candidature pour les présidentielles de 2024. Ouais. Il faut rappeler que les réseaux sociaux, c'est une tribune d'exception pour lui. Il a bâti ses campagnes là-dessus, mais surtout, entre autres, Facebook, c'est une plateforme de financement électoral qui rapporte très gros pour les campagnes qu'il a faites. Alors, Facebook, cette décision-là, le conseil de surveillance dit que Facebook avait été correct d'avoir suspendu Donald Trump le 7 janvier, au lendemain des émeutes du 6 janvier au Capitole, mais le conseil dit surtout qu'il y avait un manque de clarté concernant la durée de la suspension, et là, on est venu régler ce manque de clarté-là. Monsieur Trump a réagi par voie de communiqué en affirmant que la décision, c'est une insulte pour les gens qui ont voté pour lui, qualifie ça de censure, d'action pour le réduire au silence, et il termine avec son traditionnel « nous gagnerons ». Mais au-delà de l'impact sur Donald Trump, sur les présidentielles de 2024, ça pourrait avoir un impact majeur sur la façon dont on traite des figures controversées aux États-Unis, et particulièrement sur les réseaux sociaux. Parce qu'actuellement, Facebook donne des exemptions qui sont souvent accordés aux personnes d'intérêt médiatique, comme des politiciens. Certains politiciens, et c'est partout dans le monde, sur Facebook, tiennent des propos qui normalement ne seraient pas acceptés pour un citoyen ordinaire, mais qui sont tolérés parce qu'ils sont d'intérêt médiatique, et donc on ne veut pas les museler ou bâillonner ces gens-là. C'est quand même une question très délicate sur la liberté d'expression. Qui peut museler, qui peut empêcher quelqu'un de parler sur des plateformes de réseaux sociaux qui sont, rappelons-le, une entreprise privée, ce sont des entreprises privées. Et là, c'est l'entreprise privée Facebook qui a décidé le 7 janvier que le président américain ne pouvait plus avoir une voix sur le réseau social. C'est une décision quand même qui déchire le pays. Elle est vue trop clémente comme étant trop clémente par certains, trop sévère par d'autres. D'ailleurs, en avril, il y avait un sondage qui est sorti. 50% des Américains étaient en désaccord avec le bannissement permanent de Donald Trump des réseaux sociaux, alors que 49% étaient en faveur. Le pays est fortement divisé là-dessus.
Des questions passionnantes en politique intérieure et puis en politique internationale, à la faveur d'une tournée internationale justement, c'est la vice-présidente Kamala Harris qui a en quelque sorte donné une douche froide aux candidats à l'immigration clandestine avec ce mot d'ordre « ne venez pas ». Est-ce que vous voulez nous en dire plus?
Oui, Kamala Harris, qui est actuellement en voyage à l'étranger, elle était au Guatemala lundi. Elle a rencontré notamment le président guatémaltèque, qui est mardi. Hier, elle a rencontré le président mexicain, Andrés Manuel López Obrador, qui vient tout juste d'ailleurs de voir sa coalition prendre du recul là, dans les élections en mandat. Donc, elle a eu deux rencontres bilatérales. C'est un voyage important, surtout sur le plan de l'immigration, parce qu'elle avait un message très, très clair lundi. C'était sa première apparition publique, sa première conférence de presse, première déclaration en tant que vice-présidente à l'étranger. Et elle a dit tout simplement, ne venez pas, les États-Unis continuent de renforcer nos lois et de sécuriser nos frontières. C'est dans la foulée de l'afflux de migrants illégaux à la frontière avec le Mexique. Donc, elle est en mission pour lancer ce message-là aux habitants qui voudraient immigrer aux États-Unis, rappeler qu'il existe des moyens légaux d'immigrer au pays. Ouais. Mais c'est surtout un voyage qui démontre son influence et son rôle de premier plan au sein de l'administration Biden. Que Joe Biden lui fasse confiance pour un tel voyage, c'est quand même un voyage qui est très important. Mm-hmm. Ça montre qu'elle a un rôle très important dans l'administration. Donc, elle était au Guatemala lundi et hier au Mexique. Et elle a dit tout simplement, ne venez pas aux États-Unis illégalement par la frontière avec le Mexique. Parce qu'il y a une grande crise à la frontière en ce moment. Le nombre de migrants qui était très élevé dans les derniers mois.
En effet, Vincent, merci pour tous ces éclaircissements. On va terminer en restant chez les démocrates, cette fois avec des fissures qui commencent à apparaître, semble-t-il, dans le parti. C'est par le biais de Joe Manchin qui a décidé de ne pas appuyer un projet de loi For the People Act. Pouvez-vous nous expliquer?
Oui, Joe Manchin, c'est en ce moment le sénateur démocrate le plus influent à Washington. Si c'est pas le sénateur tout court le plus influent, il est le sénateur démocrate de la Virginie-Occidentale, mais étant un modéré, c'est souvent le vote que les démocrates vont perdre et qui va faire pencher la balance en faveur des opposants à un projet de loi. Comme ici, c'est un projet de loi qui a été déposé par le gouvernement fédéral au Congrès fédéral pour contrer les efforts des États qui réduisent l'accessibilité du droit de vote aux États-Unis. Donc, on oblige les États à organiser 15 jours de vote par anticipation lors des élections. On oblige aussi, on enlève la justification pour obtenir un bulletin postal pour voter par la poste. Le projet de loi réforme aussi les règles de financement électoral. On ajoute plus de transparence. On s'attaque aussi à la redéfinition des districts électoraux à des fins partisanes. Donc, c'est un gros projet de loi. Mais le sénateur Joe Manchin a écrit une lettre ouverte dans un journal de son État où il pointe du doigt le fait qu'il n'y ait aucun républicain, aucun appui du Parti républicain qui appuie le projet de loi. Il dit qu'il y a des réformes électorales aussi importantes. Ça doit être approuvé de façon bipartisane, sinon ça creuse les divisions partisanes, le fossé partisan qui existe aux États-Unis. Ouais. Quand c'est appuyé par seulement un parti, et quand c'est un sujet aussi important que les élections, ça creuse ce fossé-là. Parce que il dit, on peut pas utiliser des réformes électorales pour faire avancer notre agenda législatif, l'agenda d'un seul parti. Donc, surtout, il s'oppose à la suspension du filibuster. vous en parlais la semaine dernière. C'est la procédure qui donne une voix aux partis minoritaires en obligeant la plupart des projets de loi à être passés avec le seuil de 60 votes au Sénat.
Ouais.
Il dit qu'en 2017, l'administration Trump avait voulu abolir le filibuster quand ils avaient la majorité au Sénat, mais que les démocrates s'y étaient opposés pour continuer à avoir une voix, même s'ils étaient minoritaires. Donc, il pense que on doit garder ce filibuster-là. Il pointe du doigt cet argument-là pour s'y opposer. Alors, il pense qu'on devrait plutôt miser sur revitaliser le Voting Rights Act. Lisa Murkowski, d'ailleurs, la républicaine de l'Alaska, est du même avis. On verra bien où ce projet de loi-là va pouvoir poursuivre, parce qu'en ce moment, avec un sénateur démocrate qui s'y oppose, ça ne passera pas à l'heure actuelle. On va voir où tout ça va aller si les démocrates réussissent finalement à aller chercher des appuis au Parti républicain. Mais d'après le portrait actuel, c'est peu probable.
L'actualité de nos voisins américains analysée chaque semaine pour vous, c'est Vincent Gosselin sur les ondes de choc. Un grand merci, Vincent.
Toujours un plaisir. Merci.